Radio Okapi.
Les informations avec Belinda Bosuma.
Situation tendue ce jeudi à Rougari dans le Nord Kivu. Des échanges de tirs ont opposé hier la nuit le M23 aux groupes armés locaux. Les populations qui sont encore au chef-lieu de Rutshuru et à Kiwanja s'inquiètent pour leur sécurité. Plusieurs cas de diarrhée et vomissements enregistrés à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Déjà 2 décès, la population appelée à observer les mesures d'hygiène. Et puis, au Nord Kivu, environ 180 000 personnes déplacées ont été enregistrées sur différents axes à la suite des affrontements entre l'armée et le M23 dans le Rutshuru. Le programme alimentaire mondial qui a commencé à assister ces personnes dit faire face à d'énormes défis. Pour en parler, nous recevons Wilfried Kwambi, chef de bureau PAM, zone Est, basé à Goma. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, la situation reste tendue ce jeudi dans le groupement de Rougari, 40 km au nord de Goma. C'est après des échanges des tirs mercredi à la tombée de la nuit entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux. Pendant ce temps, les habitants vivant encore au chef-lieu de Rutshuru et dans la cité de Kiwanja expriment quelques inquiétudes sur leur sécurité. Le point avec Innocent Fadili.
Au niveau des Rougari, les échanges des tirs ont opposé entre 19h et 21h locales hier mercredi les rebelles du M23 aux combattants locaux qui appartiendraient au collectif des mouvements pour le changement CMC Nyatura, selon plusieurs sources locales. Aucun bilan n'est disponible, mais nos sources affirment que les deux belligérants sont jusqu'à maintenant les uns vers l'est et les autres vers l'ouest des Rougari, chef-lieu de ces groupements éponymes. Au niveau des Bunagana, un calme règne deux jours après les premiers bombardements aériens des FRDC, des positions de l'ennemi mis sur les collines surplombant cette cité frontalière, précise les sources sur place. Jusqu'à présent, aucun bilan de ces bombardements des mardis n'est disponible. Au niveau du chef-lieu du territoire des Rutshuru et dans la cité de Kiwanja, les habitants contactés sur place parlent d'une inquiétude due à une mobilisation des rebelles qui seraient entrés de creuser des retranchées et des trous des fusiliers et des mitrailleuses autour notamment de la cité de Kiwanja. Aussi, ajoutent ces sources, quelques personnes dont les directeurs de certaines écoles primaires seraient déjà interpellés par les rebelles pour des raisons non encore élucidées.
Par ailleurs, plus de 16 000 ménages de déplacés qui ont fui les récents affrontements opposant les FARDC au M23 reçoivent une assistance alimentaire du PAM. La ration alimentaire distribuée selon la taille des ménages comprend la farine de maïs, le haricot ou le petit pois, d'huile, l'huile végétale et le sel pour 15 jours. Une assistance qui constitue un ouf de soulagement pour ces milliers de déplacés. Rosalie Zawadi.
Là, c'est qu'il y a bien.
Je me sens bien, dit cette mère des 8 enfants qui vient de recevoir la ration alimentaire de sa famille. Son rire traduit la joie de voir que ses enfants vont pouvoir manger pendant 2 semaines. Bahati Jean-Paul est venu de Rougari avec ses 5 enfants. Il est soulagé de ne plus pouvoir supporter les pleurs de ses enfants affamés, du moins pour le moment.
J'ai reçu la farine, le petit pois, l'huile et le sel. Qu'on perde 5 enfants, cette quantité de vivres pourrait nous servir pendant 5 jours. Nous vivions dans la souffrance du fait que les enfants n'avaient pas à manger. Mais maintenant ça va. Nous remercions vraiment.
Les chefs du bureau PAM zone Est basé à Goma, Wilfried Kwambi, explique que c'est depuis le début de ces mois que cette distribution a commencé.
On a déjà assisté à 55 000 personnes sur les 75 qu'on a enregistrées. On pense que d'ici la fin de cette semaine, on va finir la première distribution.
Notons que les PAM a distribué également des biscuits à haute valeur énergétique pour plus de 3 000 ménages les plus vulnérables, composés des femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants des 6 à 59 mois. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, 13 corps des civils exécutés par les rebelles ADF dans la chefferie de Bachou ont été découverts et mis en terre hier dans l'après-midi avec une grande émotion. Les acteurs de la société civile ainsi que les élus de cette entité demandent au gouvernement congolais de conjuguer encore des efforts pour sécuriser toutes les agglomérations de la chefferie de Bachou qui sont sous menace des groupes armés dont les ADF. Reportage de Marc Marofimbo.
Il s'agit des corps de 13 cultivateurs de la chefferie des Bachou portés disparus depuis le week-end dernier par les ADF alors qu'ils étaient en pleine activité champêtre dans cette partie sud-est du territoire de Beni. Vraisemblablement, ils ont finalement été abattus le dimanche 6 novembre dans leur champ. La population, accompagnée par un élu du territoire de Beni, Emile Saidi Balkwisha, se sont rendus sur les lieux du drame à Vutala, Kivwewe, Kiandova et Auberge où tous ces corps sans vie ont été inhumés dans leurs champs respectifs. Nos sources renseignent que 5 de ces victimes sont des Boutembo qui pratiquent les activités champêtres dans cette région étant voisine, tout en encourageant les forces armées pour les efforts qu'elles sont en train de fournir pour la sécurisation de la population dans la chefferie des Bachou. Le député professeur élu du territoire de Beni, Saïdi Emile Balkwisha, demande au gouvernement de se mobiliser pour la cause du territoire de Beni, comme il le fait face à l'agression rwandaise avec le M23, et que les militaires qui sont sur la ligne de front soient bien équipés et pris en charge. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, des échanges de tirs ont été signalés la nuit dernière entre des miliciens réfractaires du groupe armé FRPI et une patrouille de la police marine ougandaise sur le lac Albert, précisément vers l'îlot de Matete dans le territoire d'Irumu. Selon des sources de sécurité, deux Ougandais avec 4 armes ont été pris en otage puis ramenés à Koga, à l'état-major de ses assaillants. Le porte-parole des FARDC en Ituri condamne cet incident car ce groupe armé, rappelle-t-il, a signé un accord de paix. Le point avec Jean-Claude Loki.
Plusieurs sources concordantes affirment que ce groupe de miliciens réfractaires au processus de paix a multiplié des attaques sur les eaux du lac Albert. Le dernier incident en date est celui survenu à Matete, non loin de Rukwanzi, situé à la limite avec l'Ouganda, où ces miliciens s'y rendent pour pratiquer des activités de pêche. Une source de sécurité rapporte que des hommes armés identifiés aux patrouilleurs de la marine ougandaise à bord d'une embarcation ont ouvert le feu sur ces miliciens. Ces derniers ont riposté et ont tué 4 Ougandais. D'autres sources parlent de 2 et 6 autres Ougandais capturés puis acheminés à Koga, l'un des bastions de ces miliciens. Toujours d'après nos sources, ces miliciens déserteurs de la FRPI ont aussi saisi des armes et une embarcation qui appartient à ces Ougandais. Un acte que condamne le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo.
Les groupes armés locaux doivent avoir un comportement républicain, favoriser un climat de paix dans leurs milieux. Nous les appelons à aiguiser du patriotisme pour éviter toute autre tentative d'insécurité dans cette zone.
D'autres sources font également état de plusieurs cas de violation de l'espace lacustre de la RDC par la police ougandaise qui traque des pêcheurs congolais utilisant des filets à mailles prohibées. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Province de Maniema, l'état des infrastructures routières du territoire de Kailo laisse à désirer. De 36 à Kailo Centre, la population parle de calvaire. Avec le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR, la population espère le désenclavement de son milieu car elle n'essaie pas évacuer ses produits agricoles vers les centres de consommation. Florence Kiza s'est rendue à Kailo avec la mission conjointe gouvernement et FIDA dans le cadre de suivi des activités du PADRIR. Voici son reportage.
Outre l'insécurité, l'état défectueux de la route appauvrit davantage cette population qui ne sait même pas évacuer ses produits agricoles vers le centre de consommation. La population attend donc avec impatience le début des travaux de ces projets. Moutou Zandakala, président de la société civile.
Nous, la population de Kailo, nous sommes très contentes d'apprendre que le PADRIR va réhabiliter la route de Kailo. Parce que quitter de 36 jusqu'ici à Kailo, c'est très difficile. C'est le calvaire. Surtout un lieu, on appelle 80 jours. Il y a l'insécurité à cause de la route. Là, on tue les gens. Faute de route, nos produits agricoles pourrissent ici.
Ces derniers demandent aux autorités provinciales la construction urgente de l'hôpital général de Kailo qui est locataire jusqu'à ces jours.
C'est depuis l'époque coloniale que ce bâtiment-là existe. Maintenant, ce bâtiment présente un danger aux malades. Que les autorités nous aident à réhabiliter ou à construire un autre bâtiment pour que nous puissions avoir accès aux soins de santé. Vraiment, c'est une urgence que les autorités nous aident.
Cette population dit être prête à accompagner tous les projets de développement de Kailo. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction la province du Haut-Katanga, parlons santé à présent. Plusieurs cas de diarrhée et vomissements sont enregistrés dans la ville de Likasi. 2 personnes en sont déjà décédées. L'appel est lancé à la population pour observer des mesures d'hygiène afin d'arrêter la progression de cette maladie. Jean Gandou.
D'après le médecin chef d'antenne du programme élargi des vaccinations, le premier cas de diarrhée et vomissement a été notifié le 30 octobre dernier et depuis, plus de 30 autres ont été enregistrés et 2 personnes en sont déjà décédées. 5 échantillons ont été envoyés au laboratoire de Lubumbashi et tous ont été positifs, mais jusqu'à ce jour, l'épidémie de choléra n'est pas encore déclarée par l'autorité urbaine. Un centre de traitement de choléra est érigé à l'hôpital général de référence d'Ako. Ce centre a été doté d'un train aussi bien par le ministère provincial de la Santé du Haut-Katanga que par l'organisation l'Organisation mondiale de la santé. Si les premiers cas provenaient de certains quartiers des communes Likassi et de Kikula, pour l'instant, les malades proviennent de toutes les quatre communes de cette ville montagneuse. Ces informations ont été fournies ce mardi au cours de la réunion d'évaluation des préparatifs de la campagne de riposte contre la poliomyélite qui sera organisée très prochainement. Pour certains habitants de Likassi, cette maladie aurait fait surface avec la tombée des pluies. Ils redoutent qu'elle ne se propage car l'ambulance de l'hôpital général de référence d'Ako est en panne et les malades sont donc transportés à moto avec risque de contamination. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Santé toujours, vaccination effective ce jeudi à travers les 18 zones de santé de l'Équateur contre la poliomyélite. La campagne qui dure 3 jours cible 633 000 enfants âgés de 0 à 59 mois. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de province au marché de Mbandaka 3. L'autorité provinciale a invité les parents à présenter leurs enfants aux vaccinateurs, lesquels vont sillonner quartier par quartier, village par village, en vue de la réussite de cette opération. Plus de détails avec Paul-Richard Malengela.
La poliomyélite est une maladie virale et grave de l'enfance. Ses effets demeurent et rendent la personne invalide, quasiment dépendante toute sa vie, a indiqué le chef de division provinciale de la santé Équateur. Pendant que le monde entier va vers l'éradication définitive, l'objectif de la campagne, selon le chef des sous-bureaux de l'OMS Équateur, est de stopper l'actuel virus dérivé de type 2, encore en circulation en RDC. D'où la nécessité d'opérer cette vaccination en vue d'éviter son exportation et sa résurgence. Docteur Richard Lechoucheke.
Nous sommes à la phase finale de l'éradication de la poliomyélite à travers le monde. La province de l'Équateur se doit, comme les autres provinces du pays, atteindre les enfants jamais vaccinés, car ce sont ces groupes qui font perdurer les risques de la persistance de la circulation de CDVPV.
Le même appel aux parents a été lancé par le gouverneur de province pour Dieudonné Boloko. Faire vacciner son enfant est un signe d'amour, mais aussi l'occasion de le rendre capable de vous prendre en charge dans votre vieillesse. C'est un plaisir de voir votre enfant grandir et devenir valide comme je le suis. N'acceptez pas de le porter toute sa vie. Voilà le but de cette vaccination. Soyez ravis que dans votre vieillesse, votre enfant pourra vous assister. Jusqu'à samedi prochain, les vaccinateurs du PEV vont passer porte à porte. Cette campagne bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires dont l'OMS et l'UNICEF. Bandaka, prochain Malengi, la radio Okapi.
L'Union des commissionnaires en douane agréée du Tanganyika, UKODAT, dénonce la multiplicité des taxes au niveau du port de Kalemie. C'est confiant ce jeudi à Radio Kapi. Son vice-président annonce que la province du Tanganyika aligne trois taxes pour une même marchandise, ce qui handicape les opérateurs économiques. Conséquence, la plupart d'entre eux préfèrent dédouaner leurs marchandises au port d'Uvira dans le sud Kivu. Écoutez à ce sujet, Eric Chibambo, vice-président de l'Union des commissionnaires en douane agréée du Tanganyika. Il est au micro de Paul Munanga.
Il y a plusieurs de nos commerçants qui exercent leurs activités ici à Kalemie qui préfèrent déclarer leurs histoires à Uvira qu'ici à Kalemie, qui est leur millier de travail et millier de consommation finale de leurs produits. Et c'est ainsi que nous avions fait cette mission, mais fort malheureusement, nous avions constaté par rapport aux recommandations et aux demandes que nous avions soumises au gouverneur, les taxes se sont multipliées. Vous allez constater sur une même marchandise liée à l'importation ou une marchandise à libre pratique, il y a trois taxes. Uniquement pour les comptes de la province du Tanganyika. Il y a les 2% qui est perçu avec le service de la DGRTAN, qui est la direction des recettes du Tanganyika. Il y a aussi les commerces extérieurs qui perçoivent sur cette même marchandise pour les comptes de la province. Il y a aussi les services de l'industrie qui perçoivent les taxes d'estampillage sur cette même marchandise. Voilà que pour une même marchandise, vous allez vous retrouver avec trois taxes uniquement pour la province du Tanganyika. Je dirais, par ignorance, il y a nos commerçants qui paie ses taxes et nous dénonçons ça comme techniciens de nos commerçants.
Aucune réaction pour l'instant de la part des autorités du Tanganyika à ce sujet. Et au Kasai oriental, près de 45 habitations construites aux abords de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi ont été démolies mardi par les engins lourds utilisés pour la modernisation de cet aéroport. Le maire de la ville affirme que cette décision a été prise pour permettre aux entreprises sélectionnées pour la modernisation de l'aéroport de poursuivre les travaux débutés depuis quelques mois. Rappelons que dans un arrêté signé le 18 octobre dernier, le maire de Mbujimayi avait donné un ultimatum de 4 jours aux populations vivant depuis plusieurs années dans les environs de l'aéroport de Bipemba de démolir volontairement leurs habitations pour récupérer les matériaux avant l'exécution du plan de déguerpissement.
Actualité internationale.
Nous sommes d'abord en Ouganda, alors que des nouveaux centres de traitement ouvrent leurs portes à près de 150 km de Kampala, la capitale ougandaise. La dernière souche du virus Ebola suscite la peur des habitants de Kassanda et Mubende. À ce jour, 53 personnes sont mortes, dont des enfants, sur plus de 135 cas, selon les chiffres du ministère ougandais de la Santé, qui font craindre que cette maladie hautement contagieuse se propage dans tout le pays. Par ailleurs, au Malawi, la plus grande épidémie de choléra des 10 dernières années montre des signes de ralentissement après avoir connu un pic en octobre. Mais la maladie a déjà fait 214 morts au total, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Ce pays d'Afrique australe a enregistré 7499 cas depuis mars. Le ministère de la Santé a déclaré que 174 nouveaux cas ont été signalés mardi contre plus de 200 au quotidien à la mi-octobre.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Environ 180 000 personnes déplacées ont été enregistrées sur différents axes à la suite des affrontements entre le M23 et les FARDC dans le Rutshuru. Le programme alimentaire mondial PAM, qui a commencé à assister ces personnes, dit faire face à d'énormes défis. C'est entre autres l'insuffisance de stocks pour satisfaire aux déplacés, le trafic Goma-Rutshuru suspendu et qui rend difficile l'accès aux déplacés qui sont dans le Rutshuru et bien d'autres. Pour en parler, nous recevons le chef de bureau du PAM zone Est basée à Goma. Wilfried Kwambi décrit la situation dans cet entretien avec Sifa Maguru.
Bonjour messieurs.
Oui, bonjour madame.
Le Nord Kivu fait face à une situation humanitaire préoccupante, notamment dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Le PAM est déjà présent sur terrain. Pouvons-nous savoir qu'avez-vous fait comme constat, d'abord ici à Nyiragongo, tout proche, dans les alentours, partout où il y a les déplacés, et qu'est-ce que vous apportez comme réponse?
Comme tu le dis, on est sur le terrain depuis que cette crise a, je vais dire, recommencé le 20 octobre. Il y a eu beaucoup de déplacements de la population. Ceux qui étaient à Rutshuru, ceux qui vont aller vers le nord, vers Libero, c'est qu'ils ont allé vers Masisi et on sait que le grand Kanté est venu vers ici à Nyiragongo, là où on a déjà décidé de déplacer, là où le PAM actuellement est en train de distribuer les vivres. Déjà, sur le plan global, je parle de la réponse au niveau de l'équipe humanitaire ici à Goma. Selon les derniers chiffres qu'on a eu de OCHA, on a 183 000 personnes déplacées. Le PAM a enregistré ici dans le décide à Nyiragongo. Déjà, on a enregistré plus de 75 000 personnes. Actuellement, on a commencé les distributions de vivres à la population déplacée depuis le 1er novembre. Jusqu'à aujourd'hui, on a déjà assisté à 55 000 personnes sur les 75 qu'on a enregistrées. La distribution est en cours actuellement. On a fini le premier site qui était en Chine et maintenant on est dans le site de Munini. Actuellement, vers le Grand Nord, dans le territoire libéraux, il y a une évaluation multisectorielle qui est en cours pour évaluer, connaître combien de personnes sont déplacées, quels sont leurs besoins. On attend le rapport aussi de cette évaluation qui va nous permettre d'avoir un plan de réponse qui va couvrir le Grand Nord. Et actuellement, pour la zone de Masisi, on avait déjà planifié aussi l'assistance dans ces zones qui va commencer le 15 novembre en forme de transfert monétaire.
Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés jusqu'à là sur terrain?
Comme vous le savez, avec les combats qui sont sur le terrain, donc le route nationale numéro 2 est coupée. C'est difficile pour nous pour assister la population qui est au niveau de Rutshuru et aussi Bunagana qui est sur la zone contrôlée par le M3. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que la paix revienne, qui va nous permettre donc qu'on pourrait aller dans ces zones. On sait qu'il y a les populations qui sont là-bas, qui souffrent, qui ont besoin de nos assistances actuellement. Mais aussi, il y a le problème des ressources. Comme vous le savez, la crise est venue comme ça, mais il faut planifier en avance. Ce qu'on est en train de distribuer maintenant, va finir, mais il nous faut beaucoup d'autres ressources financières pour acheter aussi les vivres, pour continuer la distribution. Certes, il faut noter que ce n'est pas seulement l'alimentation, mais il y a d'autres secteurs comme l'eau, comme le wash, comme la santé, qui est aussi très important. Et on essaye dans la coordination humanitaire aussi d'assurer que tous les secteurs sont couverts, parce que seulement donner de à manger sans les autres, ça ne va pas changer beaucoup de choses.
J'imagine qu'il y a une coordination au niveau des agences humanitaires qui canalisent tout ça.
Oui, il y a au niveau de OCHA, OCHA qui est l'agence des Nations Unies pour la coordination en situation d'urgence, surtout humanitaire, est en train de faire cette coordination. Et on travaille en collaboration aussi avec le gouvernement, le département de protection civile qui sont au niveau de gouvernement. Comme vous le savez, le gouvernement aussi est en train d'apporter son assistant, qui est vraiment la bienvenue, que c'est une bonne chose, parce que ça va aider cette population qui sont dans cette situation. Et nous, comme acteurs humanitaires, plus le gouvernement, on doit se coordonner pour assurer qu'il n'y a pas les ménages ou bien les populations vulnérables qui sont laissées à côté.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci, madame.
Voilà, c'était là le chef du bureau PAM Zone Est basé à Goma, Wilfried Kouambi, répondait aux questions de Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal, coordonné par Blaise Shindani Kambala, supervision de Martin Sebujangwe, Polydor Basunga, la mise en onde, et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.